Vous écoutez On lit pour vous.
Le prix à payer pour rester au frais, un texte de Camille Dauphiné-Pelletier, paru le 4 août 2024 dans la presse. Les records de chaleur se succèdent et tout indique que la tendance s'accentuera au cours des prochaines années. Quand le ventilateur et le climatiseur de fenêtres ne font plus le travail, il est légitime de rêver à un système de climatisation plus performant. Mais quelle est l'incidence de ce confort sur le portefeuille? On explore ces questions. Climatiser? Dépenses ou économie? Les factures s'empilent et on en vient à se demander où file l'argent. Le climatiseur pèse-t-il lourd dans la balance? Avant de se résigner à avoir chaud pour économiser, il faut prendre le temps d'étudier la question. Parce qu'il se pourrait bien qu'au contraire, climatiser fasse économiser à condition de faire des choix efficaces. Les Québécois sont de plus en plus nombreux à se doter d'un appareil de climatisation. Il y a eu, au cours des années, une augmentation. De 2006 à 2018, le taux de diffusion de la climatisation au Québec dans le secteur résidentiel a augmenté de 20 % souligne Sandrix Bouchard, porte-parole d'Hydro-Québec. En 2023, les trois quarts de la population canadienne avaient accès à de l'air conditionné à la maison, selon Statistique Canada. Avec la multiplication des journées chaudes et les carnets de commandes qui débordent chez les marchands, on peut se douter que ces chiffres continuent d'augmenter. Côté consommation d'énergie, ce confort vient avec une facture moins élevée que ce qu'on pourrait penser. En moyenne, les coûts de climatisation représentent 5 % de la facture annuelle des gens qui vivent à l'air conditionné, selon les données d'Hydro-Québec. Il s'agit donc d'un poste de consommation plutôt marginal, surtout quand on le compare au chauffage de l'espace, 55 % et à l'eau chaude, 20 % Hydro-Québec n'a pas pu nous fournir d'estimation en dollars du coût de l'utilisation mensuelle d'un climatiseur. En Colombie-Britannique, BC Hydro estime que l'utilisation d'une unité centrale de climatisation coûte autour de 20 $ par mois si on programme la température de référence à 25 degrés. Il faut compter quelques dollars de plus par degré de moins. Les climatiseurs ne se vendent presque plus. Là où il y a carrément des économies à faire, c'est si on se tourne vers les thermopompes. Ces appareils qui permettent de climatiser l'été et de chauffer l'hiver ne sont utilisés que par 7 % des ménages canadiens, selon Statistique Canada. Mais ils gagnent tellement en popularité que les climatiseurs ordinaires ne se vendent presque plus chez les détaillants spécialisés. Un client sur 10 qui nous appelle pour un climatiseur va rester avec cette idée. Les 9 autres, on va les convertir à la thermopompe, explique le responsable marketing d'Enviroconfort, Paul Poquet. Souvent, c'est parce que les gens ne connaissent pas ça. Mais quand on leur explique tous les bienfaits d'une thermopompe, ils finissent par décider d'embarquer. Dans cette entreprise de Lévis, plus de 90 % des clients optent pour une thermopompe. Chez Expert, à Québec, c'est le même constat. Autour de 98 % des clients choisissent une thermopompe, affirme le directeur adjoint des opérations, Raphaël Beausoleil. Et on n'a pas à se fier aux promesses des vendeurs. Hydro-Québec constate la même chose. Selon le porte-parole d'Hydro-Québec, Sandrix Bouchard, on conseille absolument aux gens qui ont l'intention d'utiliser la climatisation de faire l'acquisition d'une thermopompe. Elle permet aussi de chauffer en hiver de façon beaucoup plus efficace que les plaintes électriques qui sont très répandues au Québec. Remplacer le chauffage aux plaintes par une thermopompe permet d'économiser jusqu'à 40% de la facture de chauffage, qui est le nerf de la guerre pour réduire sa facture d'hydroélectricité. La subvention. Hydro-Québec offre, avec son programme Logiver, une subvention pouvant aller jusqu'à 6 700 $ pour l'achat d'une thermopompe. La somme obtenue dépend de la puissance de la thermopompe qui se mesure en British Thermal Unit, BTU. Attention toutefois, ça ne veut pas dire qu'il faut opter automatiquement pour le modèle le plus puissant que l'on trouve. Certains veulent aller chercher le paquet et faire installer, par exemple, une thermopompe de 18 000 BTU dans un 4,5, mais c'est beaucoup trop gros. Ça ne va pas bien travailler. Certains entrepreneurs peuvent en profiter parce que c'est plus payant de vendre de grosses machines, mais sur le long terme, pour le consommateur, ce n'est vraiment pas gagnant, met en garde Raphaël Beausoleil d'Expert. Bien sûr, on peut aussi se tourner vers les climatiseurs classiques de fenêtres, beaucoup moins performants, mais qui ne coûtent que quelques centaines de dollars. Ce n'est pas optimal du point de vue du confort, mais pour les locataires ou les gens qui ne souffrent pas trop de la chaleur, ça peut faire une bonne différence. La piscine, forte consommatrice. Il y a un coupable qui vient peser de façon plus importante que la climatisation sur les factures d'électricité, la piscine. La consommation d'énergie reliée à celle-ci est bien plus importante que celle qui passe dans la climatisation. Là, il y a des gains importants à faire, souligne Sandrix Bouchard. L'été, dit-il, la consommation d'une piscine, ça peut représenter jusqu'à 70 % de la facture estivale. Cette consommation est essentiellement liée au chauffe-eau ainsi qu'au système de pompe et de filtration. Il y a des solutions. Une toile solaire permet d'économiser jusqu'à 45 % des coûts de chauffage de l'eau. Et pour les piscines non chauffées, on peut utiliser une minuterie pour que la pompe ne fonctionne que de 6 à 12 heures par jour, ce qui permet d'éliminer jusqu'à 45 % des frais d'utilisation de la pompe en ayant encore une bonne qualité d'eau. Vous écoutez « Le prix à payer pour rester au frais », un texte de Camille Dauphinet-Pelletier, paru le 4 août 2024 dans la presse. Le prix d'une thermopompe. Les fourchettes de prix évoquées proviennent de données récoltées lors d'entrevues avec des professionnels du domaine. Elles peuvent varier selon les besoins et les régions. Thermopompe centrale. Dans une maison qui comprend déjà des conduits pour transporter l'air chauffé et conditionné, on opte généralement pour une thermopompe centrale. Il faut alors prévoir de 9 000 à 15 000 $ pour l'achat et l'installation de l'appareil, selon le choix du modèle. Côté entretien, il faut changer les filtres environ 3 fois par année. Cette opération se fait bien par soi-même et il faut prévoir autour de 150 $ en filtres par année. Thermopompe murale. Les thermopompes murales sont composées d'un condenseur à l'extérieur de la maison ainsi que d'une ou plusieurs unités réparties à l'intérieur de celle-ci. Pour une thermopompe murale avec une seule tête, il faut compter de 4 000 à 5 500 $ pour un modèle de base ou 8 000 $ pour aller dans le plus haut de gamme. On ajoute quelques milliers de dollars supplémentaires par tête. Pour l'entretien, il faut nettoyer les filtres en plastique une fois par mois en les passant à l'eau, ce qui ne coûte rien. On peut faire un nettoyage en profondeur tous les 5 ans pour éviter l'accumulation de poussière et la formation de moisissures. Il faut alors prévoir autour de 300 $ pour l'opération. Dans un condo. Pour un condo, on peut prévoir un peu moins de 4 000 $ pour l'installation d'une thermopompe. Mais attention, ce qui risque de compliquer la démarche, c'est la charte de copropriété, qui bien souvent ne permet pas l'installation de thermopompes. Dans ce cas, on peut opter pour un climatiseur ordinaire, qui se vend autour de 3 500 $ et qui n'est pas concerné par les programmes de subvention. Faire baisser sa facture sans faire de compromis, ou presque, même si, sur toute l'année, les coûts liés à la climatisation sont faibles, durant les mois de juin à septembre, ils peuvent représenter autour de 16 % de la facture pour une maison de taille moyenne. Certains gestes simples permettent de réduire ce montant, que vous ayez un climatiseur ou une thermopompe. Voici les principaux trucs suggérés par Hydro-Québec et les détaillants à qui nous avons parlé. Se servir du ventilateur de plafond. Les gens qui ont un ventilateur de plafond ont tout intérêt à le faire fonctionner et à augmenter d'un ou deux degrés la température de consigne sur leur climatiseur, température demandée à l'appareil. Le sentiment de fraîcheur sera le même, mais il viendra avec des économies d'énergie de 14 %. Fermez les rideaux. Au Québec, les fenêtres certifiées Energy Star sont conçues pour laisser entrer le plus possible la chaleur du soleil. C'est normal. Dans un pays nordique, une fenêtre efficace est une fenêtre qui nous aide à faire monter la température de la maison. Nos besoins en chauffage en hiver sont bien au-delà de nos besoins en climatisation l'été. Si on regarde, par exemple, au Texas, où il fait très chaud, une fenêtre Energy Star va être conçue, au contraire, pour bloquer la lumière du soleil, souligne le porte-parole d'Hydro-Québec, Sandrix Bouchard. Ça vaut donc réellement le coup de fermer ses rideaux et ses stores pour bloquer le soleil, surtout dans les périodes les plus chaudes de la journée. On peut s'en tenir aux pièces dans lesquelles on ne se trouve pas si on ne veut pas se priver de lumière. Augmenter la température de consigne d'un degré. On programme parfois une valeur de consigne presque au hasard, mais tentez de mettre le chiffre le plus haut avec lequel vous êtes confortable. Les économies s'additionneront. Pensez porte et fenêtre. Plus la température à l'intérieur de votre maison reste stable, moins votre climatiseur ou votre thermopompe devra dépenser de l'énergie pour l'amener au point de consigne. Il faut donc éviter d'ouvrir les fenêtres et les portes de façon abusive. Si on est 12 dans la maison, qu'on fait du barbecue, qu'on sort 5 ou 6 fois chacun, c'est sûr qu'il y a plus de consommation. Pas parce que la machine tire plus d'énergie, mais parce qu'elle fonctionne plus longtemps pour atteindre le point de consigne, parce que plein de facteurs viennent affecter la performance, explique Raphaël Beausoleil, d'Expert à Québec. Nettoyer ou changer le filtre. La température extérieure qui augmente demande un peu plus de travail aux thermopompes et climatiseurs, mais moins qu'un filtre mal entretenu. Peu importe le degré de chaleur à l'extérieur, un climatiseur mal entretenu et obstrué va avoir un plus gros impact sur votre facture, souligne Paul Poquet, responsable marketing d'Enviro Confort. Avant de faire venir un technicien. Dernier conseil. Si vous avez un pépin avec votre appareil, avant de payer pour faire venir un technicien, essayez d'allumer et d'éteindre le disjoncteur, de changer les piles de votre télécommande et vérifiez si votre entretien est à jour. On a beau installer une machine chez un client et lui dire tout ça, il n'y pense pas forcément, parce qu'il y a toujours un tas d'entretiens à faire dans une maison. Mais environ 70 % des appels reliés au service sont dus à des filtres qui sont mal nettoyés, souligne Paul Poquet. C'était « Le prix à payer pour rester au frais », un texte de Camille Dauphinet-Pelletier, paru le 4 août 2024 dans la presse.
Combien de mariages à 830 millions faudra-t-il? un texte de Marie-Ève Fournier, paru le 27 juillet 2024 dans La Presse. Il est question, ces jours-ci, au sommet du G20, de la création d'un impôt minimum pour les ultra-riches à travers le monde. Ça tombe bien, car l'exemple suprême des inégalités de richesse vient tout juste de se produire en Inde. Un mariage délirant qui aurait coûté plus de 800 millions de dollars avec des prestations privées de Rihanna, des Backstreet Boys et de Justin Bieber. Les artistes Katy Perry, Pitbull et le DJ David Guetta ont aussi diverti 1200 privilégiés lors d'une croisière privée en Méditerranée. Une escale à Cannes leur a permis de participer à un bal masqué, tandis qu'à Portofino, ils ont eu droit à un concert d'Andrea Bocelli. Et ce n'est qu'une des activités de ce mariage qualifié de plus luxueux de l'histoire. En tout, les célébrations se sont étalées sur 4 mois. Elles ont pris fin avec la cérémonie officielle à la mi-juillet 2024. De grands noms ont fait le voyage dans ce pays pauvre pour y assister. Bill Gates, Hillary Clinton, Tony Blair, Boris Johnson, Mark Zuckerberg, David et Victoria Beckham. Un système sophistiqué avec des codes QR visait à empêcher la revente des invitations. La BBC a rapporté que des dizaines de chefs cuisiniers ont servi aux invités 2000 plats différents. En guise de décor, les mariés ont notamment misé sur 60 sculptures florales représentant des animaux, dont des éléphants et des tigres. Chacune aurait nécessité 100 000 fleurs, selon Paris Match. Les tenues et les bijoux étaient encore plus extravagants. L'idée était d'en mettre plein la vue à la longue liste de convives coûte que coûte. À côté de cela, le voyage dans l'espace à 41,8 millions du fondateur du Cirque du Soleil, Guy Laliberté, semble tout à coup bien anodin. Le mariage en question est celui de Radhika Merchant et d'Anant Ambani, fils de Mukesh Ambani, 11e fortune mondiale. L'homme qui gère un empire diversifié, pétrochimie, télécommunications, vente au détail, services financiers, vaut 117 milliards US, l'équivalent de 162 milliards canadiens selon Forbes. Cette somme fait de lui la personne la plus riche d'Asie. Une donnée permet aisément de saisir l'ampleur de la richesse de cet homme, 0,5%. Et oui, la facture de ce mariage, qui dépasse l'entendement, ne représente que 0,5% de sa fortune. C'est comme si un couple de Québécois détenant 300 000 $ d'actifs dépensait un petit 1 500 $ pour s'unir. C'est à peine si le retrait paraît dans le compte de banque. Le fameux palmarès Forbes des milliardaires, en dollars américains, compte aujourd'hui 2712 noms. À ma grande surprise, j'ai découvert que 200 Indiens en font partie, dont 10 dans le top 100. Pendant ce temps, 90% de la population de l'Inde gagne moins de 150 $ US par mois, rapporte Paris Match. Les inégalités dans le pays le plus populeux de la planète ne cessent de croître. Une récente étude du World Inequality Lab a permis de déterminer qu'en Inde, le 1% des plus riches détient 40% des richesses du pays. Cette concentration dépasse celle qu'on voit aux États-Unis, en Afrique du Sud ou au Brésil, pays particulièrement inégalitaires. Certains observateurs accusent le modèle économique du premier ministre indien Narendra Modi de favoriser l'élite du pays au détriment de la population pauvre. Ces réformes auraient contribué à l'enrichissement fulgurant des grands conglomérats, dont celui de Mukesh Ambani. Ce n'est assurément pas un cas unique au monde. Les inégalités s'accentuent un peu partout, ce qui met notamment en péril la cohésion sociale. Oxfam qualifie même les inégalités extrêmes de violence économique. Les choix politiques biaisés en faveur des personnes les plus riches et les plus puissantes sont directement préjudiciables pour la grande majorité des citoyens ordinaires dans le monde, plaide l'organisation. Voilà pourquoi il faut trouver des moyens de mieux répartir la richesse. Un projet de taxe mondiale sur la fortune ou d'impôt minimum pour les super-riches se trouve justement au menu de la rencontre des ministres des Finances du G20 qui se tient actuellement à Rio de Janeiro. C'est un pas encourageant. Mais, dès le début des échanges sur le sujet, les États-Unis ont dit qu'ils ne voyaient pas le besoin d'une telle mesure. Le Brésil en a quand même fait une priorité. Selon le président de gauche, Luiz Inácio Lula da Silva, il faut taxer les milliardaires, car en haut de la pyramide, les systèmes fiscaux ne sont plus progressifs, mais régressifs. Ainsi, les super-riches prêtent proportionnellement moins d'impôts que les travailleurs. Sa proposition est notamment soutenue par la France, l'Espagne, l'Afrique du Sud, la Colombie et l'Union africaine. Impossible de s'entendre. Toutefois, quand le pays qui a permis à Elon Musk et Jeff Bezos de devenir les deux hommes les plus riches du monde s'oppose à toute négociation internationale à ce sujet, ce n'est guère étonnant, mais il faut s'en désoler avec vigueur, surtout quand on sait que le taux d'imposition du 1% des plus riches dans les pays du G20 est passé depuis 1980 de 60 à 40% selon les calculs d'Oxfam. Jusqu'où faudra-t-il se rendre pour que les États-Unis, qui carburent aux excès, allume enfin sur les conséquences des inégalités? C'était combien de mariages à 830 millions faudra-t-il? Un texte de Marie-Ève Fournier, paru le 27 juillet 2024 dans La Presse.
Des nouvelles des pluies acides. Un texte de Mathieu Perrault, paru le 11 août 2024 dans La Presse. Yves Poirier, un lecteur, demande « Pourquoi n'entendons-nous plus parler des pluies acides? Il y a 20 ou 30 ans, ces pluies menaçaient nos lacs et rivières. Ce n'est plus le cas aujourd'hui? On en parle moins, parce que la situation s'est beaucoup améliorée, mais les effets des pluies acides se font toujours sentir. » Dans les années 1980, on entendait parler du dépérissement des érablières, explique Louis Duchesne, ingénieur forestier au ministère provincial des Ressources naturelles et des forêts, qui a publié à l'automne 2023 un résumé des progrès de la lutte contre les pluies acides. Selon Louis Duchesne, ingénieur forestier au ministère des Ressources naturelles et des forêts du Québec, il y a eu, depuis les années 1980, des ententes canado-américaines et internationales qui ont mené à une amélioration vraiment marquée. Les pluies acides se formaient par l'interaction entre des oxydes de soufre et d'azote émis par les usines et centrales électriques au charbon et la pluie. les acides sulfuriques et nitriques créés dans les nuages endommageaient les infrastructures métalliques et certains immeubles, notamment ceux en calcaire. Ils affectaient aussi les poissons des lacs. Au départ, on pensait que les acides faisaient tomber les feuilles. Mais finalement, on s'est rendu compte que l'effet avait lieu dans les sols forestiers, dit M. Duchesne. Les éléments basiques des sols contraient les acides, puis étaient lessivés vers les ruisseaux. Ça menait à un appauvrissement des sols. Les éléments lessivés sont des cations basiques, du potassium, du calcium et du magnésium. Seules les régions très au nord, qui avaient moins de pluies acides, et celles qui avaient des sols très argileux et riches, comme la Gaspésie, ont été épargnées. Dans les érablières, les érables ont laissé leur place aux hêtres, moins affectés par l'appauvrissement des sols. À quand la stabilisation? Les émissions d'oxyde de soufre et d'azote ont respectivement baissé de 78 et 61 % depuis leur pic des années 1980. Les mesures dans les érablières prises par le ministère montrent que le pH des sols est passé de 4,2 à 5,2, ce qui est 10 fois moins acide, parce que l'échelle du pH est logarithmique. Par exemple, un pH de 4,2 est semblable à celui d'une tomate. On pensait que ça se stabiliserait à 5. On est surpris, note M. Duchesne. C'est l'héritage de 40 ans de pollution atmosphérique. On ne sait pas où le pH va se stabiliser. Les érables, qui ont été affectés par les pluies acides, continuent à avoir une croissance plus lente, mais ceux qui sont nés plus récemment sont plus vigoureux, selon l'ingénieur forestier du Québec. Le programme de suivi du dépérissement des érablières a été abandonné il y a une dizaine d'années, vu l'amélioration. En savoir plus, 40 millions, coût pour les forêts de l'Estrie des pluies acides en 1989, source Union des producteurs agricoles. 50 % proportion des érablières québécoises affectées par les pluies acides en 1985. Source Ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs. C'était « Des nouvelles des pluies acides », un texte de Mathieu Perrault, paru le 11 août 2024 dans la presse.